vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio France Alzheimer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association.
Alors cette semaine, nous parlons de sophrologie et de ses bienfaits auprès des malades d'Alzheimer. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Nelly Sebon, sophrologue, directrice des écoles de sophrologie KSEDienne de Reims et de Paris, formatrice en sophrologie au sein de l'association France Alzheimer, et puis auteure également d'un livre sur le sujet Alzheimer et la sophrologie. Bonjour Nelly.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors merci d'être avec nous. Pour commencer, comment peut-on définir la sophrologie en quelques mots ?
Alors la sophrologie, c'est une méthode qui a été créée il y a très longtemps, en 1960 par le professeur Alfonso Caicedo, et qui va avoir pour objectif premier de prendre en considération la gestion émotionnelle par des exercices respiratoires, par des exercices qui mettent en avant aussi des mobilisations corporelles. Et puis en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, on peut parler aussi de plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'on va booster le lien émotion et plasticité cérébrale.
Alors pourquoi choisir la sophrologie dans une pathologie telle qu'Alzheimer ?
Alors pourquoi choisir la sophrologie ? C'est une bonne question. Alors j'ai envie de dire, il y a plusieurs formes de sophrologie. Il y a une sophrologie qui va s'axer sur la relaxation. Alors on peut comprendre que pour les pathologies neurodégénératives, eh bien l'effet relaxation va avoir une importance majeure, puisque la personne étant plus calme, elle va être beaucoup plus réceptive. Et puis, il y a à côté ce qu'on pourrait appeler la sophrologie caïcédienne, qui va être une sophrologie qui s'appuie sur des théories scientifiques et qui va aller un petit peu plus loin, qui va travailler avec la personne pour booster et stimuler ses capacités résiduelles. Et dans le travail de la maladie, l'apport que j'ai pu, moi, en tant que sophrologue auprès de ces patients, a montré qu'on avait une amélioration du comportement, une amélioration langagière. On va stimuler le cerveau jusqu'à temps qu'il puisse être stimulé. Alors, ce n'est pas une méthode qui guérit, bien évidemment, mais c'est une méthode qui va accompagner au plus juste des besoins de chacun. Donc, elle demande une appréciation et une adaptabilité au plus près des potentiels de chacun des patients qu'on va pouvoir accompagner.
Alors, cela concerne les personnes qui sont à quel stade de la maladie ?
J'ai envie de dire à tous les stades, dans la mesure où nous allons rencontrer une personne qui va être en communication avec d'autres personnes, et on parle de communication même si nous parlons de communication non verbale. Tous les stades, bien sûr, l'importance, ce serait de pouvoir accompagner des gens qui sont en stade, même en prévention mémoire, la sophrologie booste la mémoire, stimule, je disais tout à l'heure, la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la mise en lien des mots, des situations. On sait que les personnes Alzheimer vont avoir une problématique de reconnaissance des mots, des personnes qu'ils accompagnent, la nosognosie. Et donc, on peut accompagner les personnes Alzheimer dans à tous les niveaux. Mais il va falloir aussi que le sophrologue soit parfaitement formé à ça, puisque on sait que un stade précoce n'a rien à voir avec un stade avancé. Et il va falloir que le sophrologue comprenne les atteintes cérébrales pour pouvoir travailler au plus juste avec les personnes.
Vous êtes sophrologue, mais donc par rapport à la maladie d'Alzheimer, est-ce que vous avez dû, pour la traiter, apprendre avant à connaître la maladie ?
Alors moi, au départ, je suis une orthophoniste spécialisée en neurologie. Et donc, c'est vraiment l'atout de mon premier métier, l'orthophonie, qui m'a permis justement de rencontrer ces personnes avec un autre outil que l'orthophonie, l'apport langage ou l'apport mémoire, et avec tout un travail qui se basait au premier plan sur la respiration. Et puis progressivement, en travaillant sur la respiration, alors là c'était précurseur, hein, c'est il y a plus de 30 ans de ça, c'était de voir que l'émotionnel avait un impact sur l'état de communication du patient et sur sa réceptivité. Et à partir de là, je me suis formée à la sophrologie et j'ai été la première orthophoniste au sein de l'Académie internationale de sophrologie caïcédienne à être sophrologue et sophrologue caïcédienne. Et donc, j'ai fait des liens entre mes connaissances en neurologie et mes connaissances en sophrologie. Et c'est cet apport-là qui permet aussi de mieux comprendre, de mieux cibler. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas que de la relaxation. Et d'ailleurs, je forme des sophrologues à cette pratique, à aller stimuler telle ou telle zone peut-être cérébrale pour aller permettre à la personne d'être plus dans une compétence beaucoup plus scientifique qu'une simple approche, on pourrait dire, de relaxation.
Alors plus concrètement, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques exercices que vous faites typiquement avec des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ?
Alors au départ, c'est vraiment un travail respiratoire, c'est-à-dire que on se rend très souvent compte que les personnes qui souffrent de cette maladie ou même des maladies apparentées ont des difficultés au niveau du lien parole-respiration. Donc, les tout premiers exercices, ce sera des exercices de respiration. Des exercices où on sait bien aussi que la maladie, ça va toucher principalement des personnes qui peuvent être vieillissantes, hein, des personnes d'un certain âge, même si on parle de maladie d'Alzheimer pour des cas très précoces, hein, et malheureusement, c'est de plus en plus. Hein. Mais cette approche respiratoire est aussi en lien au vieillissement respiratoire, au vieillissement de la cage thoracique, des capacités respiratoires. Donc ça, c'est vraiment un des premiers points très très importants. C'est le mode respiratoire, récupérer une respiration souple pour aller, on pourrait dire, faire une meilleure circulation de l'air au niveau du cerveau, aller mieux, on parle de perfusion cérébrale, aller vraiment diffuser cet oxygène au sein du cerveau. Et on sait que là, du coup, le cerveau va être beaucoup plus réceptif. Ça, c'est un premier point. Après, nous allons beaucoup travailler en sophrologie, Cassidène, avec le corps. Puisque la personne ne se sent plus souvent dans son corps. Elle n'est plus forcément habitée de son corps. Et on sait que la maladie est une maladie en lien avec le temps présent, le temps T. Hein. L'oubli, c'est quoi ? C'est oublier ce qui s'est passé. Mais si on ne sait pas déjà ce qui est le temps T, le temps présent, évidemment que le temps passé n'existe pas non plus. Donc ça va être justement une autre approche qui va permettre, en prenant conscience de son corps, ici et maintenant, comme nous aimons le dire en sophrologie, eh bien la personne va progressivement se reconnecter à son temps présent pour pouvoir justement se reconnecter à son passé. Et là, c'est une dimension qui n'est pas forcément abordée dans toutes les thérapies ou les accompagnements qu'on peut avoir en orthophonie, en kiné, etc. Parce que on va travailler complètement différemment avec le corps, on va le faire bouger, mais on va ne pas lui faire prendre conscience de cet instant présent. Donc ça, c'est aussi un autre aspect. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir travailler sur des exercices qui vont stimuler la mémoire, qui vont, par des mises en représentation mentale, on va pouvoir travailler sur le langage, sur l'élaboration langagière. Et puis, bien sûr, eh bien, à partir de là, quand la personne se sent bien dans un environnement, se sent bien en sécurité, eh bien, sa relation à l'autre va être améliorée, sa relation à son aidant, bien évidemment, et puis sa relation aussi à l'équipe avec laquelle elle doit travailler, et bien souvent avec laquelle elle peut se sentir aussi en situation d'insécurité, tout simplement parce que les choses lui arrivent de manière un peu flash, sans faire de lien, et donc on va avoir une amélioration émotionnelle dans la relation avec l'autre.
Justement, j'allais vous parler des bienfaits de cette pratique, sachant que ça vient bien sûr en complément d'un accompagnement médical.
Ah mais complètement, on ne peut pas travailler en tant que sophrologue seul dans son coin, hein, bien évidemment. Il faut absolument travailler avec les médecins. Il faut absolument aussi comprendre comment la maladie évolue, parce qu'elle évolue pour chacun des patients différemment. Et en fonction des atteintes, on peut même travailler sur les troubles de déglutition, en travaillant sur la mobilité musculaire. Donc la sophrologie, elle est vraiment, c'est un domaine très très large. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on parle de sophrologie caïcédienne, puisque là, et peut-être même d'adaptation de la sophrologie caïcédienne telle que moi je les propose, parce que on va toujours mobiliser un des principes essentiels de la sophrologie, c'est le principe d'adaptabilité. On est toujours en lien avec le corps, mais le corps dans son adaptabilité, avec le symptôme, mais le symptôme avec son adaptabilité, et puis aussi avec la réalité objective, c'est-à-dire quels sont les besoins là de la personne dans son environnement, puisque un environnement à la maison n'a rien à voir avec un environnement dans un EHPAD ou dans une structure ou dans une autre situation. Donc c'est le sophrologue doit travailler au plus juste avec les équipes, au plus juste aussi avec la famille, avec les aidants qui sont là. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de pouvoir mobiliser des ateliers qui vont à la fois accompagner l'aidant et à la fois accompagner les personnes souffrant de maladies d'Alzheimer et apparentées, pour qu'il y ait un espace de rencontre qui soit un espace de rencontre au plus juste de la relation humaine.
Pour poursuivre en tout cas dans ses bienfaits, vous notez quelle différence dans l'état d'un patient entre le moment où il arrive et après plusieurs séances d'exercice, dirons-nous ?
C'est un état d'apaisement. Ce que j'ai remarqué dans ma consultation quand j'étais orthophoniste et après quand j'ai travaillé avec ces personnes avec un autre outil qui était donc la sophrologie, puisque maintenant je ne suis plus du tout orthophoniste, c'est que la durée de l'accompagnement avant l'institutionnalisation était beaucoup plus longue. C'est-à-dire que avant, juste avec l'outil orthophonie, je pouvais accompagner des personnes et puis à un moment donné, l'aspect langage, l'aspect communication n'étant plus, la fragilité s'installant de plus en plus, la difficulté et les troubles étant de plus en plus importants, eh bien la personne allait en institution. Là, ce que je remarque, c'est qu'il va y avoir un accompagnement qui va s'orienter dans toutes les directions et qui va à la fois prendre en considération la personne et va prendre en considération son environnement. Et ça, c'est un effet majeur dans l'accompagnement, c'est ce retard d'institutionnalisation. Et puis après, c'est, j'ai envie de dire, le sentiment de dignité dans lequel se vivent les patients Alzheimer et ayant bien sûr des pathologies apparentées, c'est se reconnecter à soi et se reconnecter à soi avec dignité. Ça, c'est l'aspect le plus fort, le plus émouvant, j'ai envie de dire, qui se vit dans l'accompagnement.
Et justement, cet accompagnement, on peut le pratiquer chez soi, mais aussi en EHPAD ?
Oui, tout à fait. Alors, moi, je forme même des sophrologues qui vont intervenir en EHPAD, ou même des sophrologues, des gens qui sont formés à la sophrologie, qui sont déjà en structure. C'est une méthode qui est tout à fait exportable, quel que soit, même dans des hôpitaux de jour. Il y a des interventions qu'on peut tout à fait faire, hein, bien sûr. Ça peut se faire en consultation même chez un sophrologue ou une sophrologue. Et puis, il faut toujours que ce soit un sophrologue formé à. Parce qu'un sophrologue qui n'aura pas été familiarisé avec cette approche ne va apporter que l'aspect relaxation, que l'aspect respiration. Et c'est bien, bien au-delà. On va aller travailler en lien avec toute cette plasticité cérébrale et les apports vraiment des neurosciences en lien avec la maladie d'Alzheimer. Donc, bien sûr, on peut intervenir à tous les niveaux et quel que soit le lieu dans lequel on va intervenir, on va s'adapter à la personne. Alors, il vaut mieux intervenir avec des tout petits groupes parce que, bien sûr, comme on peut faire, on n'est pas dans un atelier de mise au calme, hein, où on pourrait avoir plusieurs personnes. Là, on est plutôt dans des petits ateliers, 3-5 personnes, c'est bien largement suffisant. En individuel, c'est le plus adapté, hein, puisque là, on va être dans un environnement sécure. Et puis, il va y avoir ce qu'on appelle vraiment une vraie parenthèse où le sophrologue travaillant face à face va pouvoir aussi travailler avec la personne Alzheimer, puisqu'on sait que son champ visuel aussi évolue et que plus on va avoir de groupes importants, moins la personne va pouvoir se sentir ciblée. Donc, du coup, elle ne pourra pas se sentir impliquée. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'avoir des tout petits groupes, voire le travail en individuel qui est tout à fait le plus adapté pour un accompagnement d'une personne Alzheimer.
Alors, est-ce que les aidants sont aussi concernés par la sophrologie ?
Complètement, complètement. D'ailleurs, à l'association France Alzheimer, je forme les aidants professionnels, mais aussi en dehors, je forme les aidants non professionnels, les aidants familiaux. Qu'on parle de maladie d'Alzheimer ou de maladie tout court, c'est très difficile d'avoir une personne qui souffre d'une maladie et bien souvent l'émotionnel va faire en sorte qu'on va être un peu exaspéré par les comportements. Mais ce n'est pas la personne qui nous exaspère, c'est la maladie qui nous exaspère, c'est la maladie qui prend le dessus. Et donc bien souvent la gestion émotionnelle est très compliquée. Donc travailler, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à reconnaître ses émotions pour ne pas impacter la personne, mais bien considérer que c'est la maladie qui est en face de nous, eh bien, va énormément aider les aidants pour se reconnecter à quelque chose qui est très simple, hein, c'est l'amour ou l'affection ou l'affectivité qui les lie et qui va faire en sorte que la situation, la relation qui va être gérée va l'être au mieux pour les deux protagonistes ou même s'il y a plusieurs protagonistes, mais aussi pour pouvoir donner à la personne aidante un autre espace pour décharger peut-être sa colère, pour décharger sa tristesse et que la situation de rencontre soit la plus juste et la plus privilégiée pour continuer à rester dans un mécanisme, si j'ai envie de dire, un peu de booster la personne qui est en fragilité plutôt que l'aidant qui se sente complètement dépassé et se sente débordé en fait par son émotion et laisse cette émotion complètement fragilisée, déchirée, anéantir la relation qui les lie d'humain à humain et puis de personne. Souvent ce sont des couples, ce sont des enfants, parfois il y a des histoires aussi dramatiques entre les uns et les autres, c'est de faire la part des choses.
Justement, sur ces retours des aidants et des malades, que vous disent-ils chacun de leur côté quand ils ont pratiqué des exercices de sophrologie ou alors quand les aidants ont vu leurs proches justement sortir de ces exercices de sophrologie, que vous disent-ils ?
Ce que j'aime beaucoup à dire quand on démarre la sophrologie, c'est nous allons apprendre à être égoïste. Et c'est un égoïsme positif. Et ça, c'est se reconnecter à soi. Et toutes les personnes aidantes qui démarrent des ateliers de sophrologie caïssidienne vont pouvoir se rendre compte que le fait de s'occuper de soi pour soi, en soi, avec soi, c'est déjà un des premiers points essentiels. Ils vont se reconnecter avec eux-mêmes. Et donc, à partir du moment où ils se reconnectent avec eux-mêmes, ils atteignent un état de plus grande sérénité, de plus grande calme au niveau du langage, même au niveau de leur comportement, au niveau de la gestuelle qu'ils vont avoir. Donc ça, c'est un point qui est très, très important parce que tout dans l'accompagnement de l'aidant va lui permettre de gérer sa relation à l'autre. D'abord, dans l'instant T, dans le présent, donc pour eux, dans la gestion émotionnelle. Et puis, la sophrologie caïssidienne, c'est aussi un peu comme du sophro-coaching. On va aller programmer des situations à venir pour apprendre à réagir dans telle ou telle situation, à apprendre à se contenir dans telle ou telle situation. Et donc, nous allons aller imaginer la situation à venir et ressentir déjà comment nous vivons cette situation. Et ça devient en fait un mécanisme qui s'ancre en nous. On a créé, c'est pour ça qu'on parle de plasticité cérébrale, on a créé de nouvelles connexions qui amorcent un nouveau comportement, donc un nouveau ressenti. Donc quand la situation va réellement se vivre, eh bien il y aura déjà comme un souvenir qui aura été déjà là. Et quand comme on sait, le souvenir permet l'apprentissage, permet de vivre la situation de manière beaucoup plus facile. Donc ça, c'est un point qui est très important. Donc les aidants vont se sentir plus aptes à vivre des situations, parfois même des situations très conflictuelles avec, on sait qu'il y a parfois des accès de colère, des fugues, etc. Ils vont pouvoir beaucoup mieux gérer. Et puis pour les patients Alzheimer qui ont encore de la communication verbale, très souvent ce qu'ils me disent c'est « là je me sens bien ». On peut croire que les personnes Alzheimer ne se rappellent pas, mais c'est faux. Je ne crois pas qu'elles ne se rappellent pas, je pense qu'elles se rappellent des choses. Et que c'est un peu comme si on ouvre des volets, on les ferme. Et quand on fait un accompagnement en sophrologie, ils ont ouvert les volets, ils ont accepté de nous ouvrir leurs volets. Et ce lien-là qui se crée est très très fort. Vous voyez, là, quand je vous en parle, j'ai des frissons parce que c'est vraiment quelque chose qui est très puissant, qui se crée. C'est une vraie communion de l'autre à l'autre, ce qu'on appelle, nous, l'alliance. Et là, quand on nous dit « je me sens bien, ça fait du bien », ou même quand il n'y a plus de langage et qu'on voit cet œil s'ouvrir, ce regard pétiller, on sait qu'on a fait notre job, comme je dis à mes stagiaires. Le travail a été fait, c'est-à-dire que ce regard, c'est le regard de l'humain à l'humain. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la peur qui est là, il n'y a plus l'angoisse de se dire « mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là » L'animal qui réagit, qui vient un peu surgir parce qu'il a peur, là il y a un vrai lien. Et du coup on va avoir une main tendue, le corps qui s'affaisse, qui s'appuie justement, qui prend appui, hein, donc qui se rassure. Et là on sait que le travail a été fait. La respiration, ça pèse, on a une respiration qui est beaucoup plus basse, une réactivité par rapport à un mot qu'on va pouvoir dire, à une chanson qu'on va pouvoir réamorcer, et bien là, oui. Donc, c'est pour ça qu'on peut travailler jusqu'à la fin, hein, en accompagnement avec un malade Alzheimer. Et c'est pour ça, j'insiste sur le fait que le sophrologue caïcidien va lui faire son travail, c'est-à-dire que dans notre formation de sophrologue caïcidien, nous vivons tous ces exercices. Nous savons ce que ça fait. Nous éprouvons l'exercice. Alors bien sûr, nous n'avons pas la maladie, mais nous éprouvons ce qu'ils font. On a mis en nous déjà certains mécanismes que vont vivre la personne. Donc du coup, il y a une réceptivité qui est beaucoup plus simple que si on prend un exercice dans un livre et qu'on va l'appliquer comme ça peut se faire beaucoup ailleurs.
Pour terminer, pour les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés, est-ce que la sophrologie est prise en charge? Et si ce n'est pas le cas, quel est son coût? Ça reste important quand même pour les familles.
Ah ben bien sûr. Alors, quel est son coût? On a le coût d'une consultation en individuel, bien évidemment. Ça peut varier en fonction des sophrologues, en fonction de la région, parce qu'on sait que, par exemple, à Paris, les coûts ne sont pas les mêmes qu'en province, bien évidemment. Et puis aussi, quand ce sont des ateliers thématiques, c'est-à-dire que on peut mener des ateliers en prenant quelques personnes. Là, les tarifs vont être aussi plus intéressants, puisque ça peut varier entre 25 euros un atelier de groupe à 50, 60 euros une consultation en individuel. Et puis après, il y a les EHPAD qui vont faire intervenir des sophrologues. Alors, c'est encore très compliqué parce que elle n'est pas connue à sa juste valeur. Justement, cette approche de la sophrologie telle que je l'explique là n'est pas connue. On essaye vraiment de la développer pour que ce ne soit pas compris comme de la relaxation. Et là, c'est peut-être faire des interventions dans les EHPAD avec des coûts peut-être moins importants, hein, bien évidemment, pour que chacun puisse trouver une alternative à l'accompagnement.
Eh bien, merci beaucoup, Nelly Sebon, pour vos réponses. Et puis, je le rappelle, votre livre s'appelle « Maladie d'Alzheimer et sophrologie caïcédienne ».
Merci beaucoup.
Et merci aussi à vous, chers auditeurs. On se retrouve très bientôt sur cette antenne. Continuez bien sûr de nous écouter, de nous écrire. Vous pouvez aussi réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.